bien, nous nous retrouvons avec Elisabeth pour la lecture de l'exhortation apostolique « La joie de l'amour » du pape François. Et j'avoue que c'est un texte que l'on découvre avec beaucoup de plaisir et finalement que l'on trouve tout à fait intéressant, même si a priori on s'était dit que ça s'adresse seulement aux gens mariés ou seulement aux familles. Eh bien, pas du tout. C'est quelque chose qui vraiment enrichit ceux qui le lisent. Et donc, nous ne pouvons que vous inviter à le lire. Ceci dit, dans notre lecture radio, nous en étions au passage où le pape évoquait la sexualité à l'intérieur du mariage. Et bien évidemment, eh bien, il y a tous ceux qui ne sont pas mariés, les veufs, les célibataires, les gens qui sont séparés, enfin bref, de nombreuses personnes qui vivent sans se marier.
Oui, alors le pape dit beaucoup de personnes donc, qui vivent sans se marier rendent de grands services à la communauté, à leur cercle d'amis, à leur vie professionnelle, et ils vivent sous le signe, pour beaucoup, de la charité, du bénévolat. Enfin, pas tous. Il y a aussi des personnes qui ne se marient pas parce qu'elles consacrent leur vie au Christ.
Voilà, donc là, il faudra se reporter peut-être aux documents qui concernent les prêtres, les religieux et les personnes consacrées. Mais en tout cas, le pape rappelle que c'est une source d'enrichissement et que la virginité, nous dit-il, est une manière d'aimer.
Oui, que c'est le signe de l'urgence du royaume. Et il fait référence au texte de saint Paul qui recommandait la virginité parce qu'il espérait un rapide retour de Jésus-Christ. Mais le pape insiste, il n'y a pas de supériorité de cet état sur l'état de mariage.
Je trouve ça intéressant. Et aussi le fait qu'il considère qu'aucune personne n'est réductible à une autre. Chacun reçoit de Dieu son don particulier.
Oui, ça c'est...
Les états de vie se complètent.
Oui.
Et puis, il voit dans le mariage l'union du Christ avec l'Église ou l'union de la nature divine avec la nature humaine. Mais il y a, il le dira un peu plus tard, pour l'un c'est une expression eschatologique du royaume et pour l'autre c'est une expression historique. Mais en tout cas, les deux participent à l'expression de ce qui advient à tout à chacun. Donc, par conséquent, c'est au numéro 160... Pas de dévaluation du mariage au bénéfice de la continence.
Et il n'y a aucune base pour une opposition supposée des deux.
Voilà, avec l'idée que la charité peut être plus facile à vivre lorsque l'on est célibataire, parce que déjà on n'a pas ce service à rendre aux proches de la famille, encore que. Mais qu'il y a effectivement le service rendu aux gens de la famille. La personne mariée peut vivre la charité à un degré très élevé. Mais cette charité très élevée est accessible et possible à tout homme. Donc, que l'on soit célibataire ou marié, eh bien, c'est accessible à tout homme. Il évoque aussi la valeur symbolique de l'amour dans la virginité.
Oui, parce que ce symbole, elle reflète la liberté du royaume des cieux. Mais le pape ajoute que l'amour des époux a d'autres valeurs symboliques. Il rappelle le lien avec la Trinité.
Et voilà, c'est là qu'il distinguait la virginité, signe eschatologique du Christ ressuscité, et mariage, signe historique. Voilà, donc si l'on essaie d'établir une supériorité de l'un à l'autre, eh bien c'est raté. Par contre, il évoque aussi, dans un cas comme dans l'autre, on peut vivre de façon tout à fait égoïste. Et c'est au numéro 162... Une solitude confortable pour le célibat qui donne la liberté de se mouvoir avec autonomie pour changer de lieu, de tâche, de choix, pour disposer de son argent, etc.
Et alors à ce moment-là, le témoignage des personnes mariées est important parce qu'il va resplendir de cette force de l'amour.
Alors c'est intéressant parce que dans ce passage finalement qui est sous le signe de « et pour ceux qui ne sont pas mariés », le pape montre que il n'y a pas à opposer l'un et l'autre, mais que les deux renvoient l'un à l'autre. Et qu'on est dans tous les cas dans l'inébranlable fidélité de Dieu à son alliance. Il est cependant très réaliste, le pape. Et dans ce même passage, il évoque les offres qui poussent à l'infidélité ou à l'abandon. Ça, c'est dans l'état de mariage. Mais je ne sais pas si vous remarquez les offres qui poussent à l'infidélité. C'est une expression rare dans la plume d'un pape, me semble-t-il. La femme peut prendre soin de son époux malade. et là, près de la croix, continuer à dire le oui de son amour jusqu'à la mort. Je pense qu'on pourrait dire aussi que l'homme peut prendre soin de sa femme malade et que c'est la même chose. Mais bon, il y a quand même des habitudes dans l'Église. La charité consiste justement à aimer plus qu'à être aimé, et il évoque la capacité de service des uns et des autres, en rappelant que tout cela devient une invitation pour vivre leur offrande pour le royaume, que ce soit pour célibataire ou gens mariés. En rappelant que la sécularisation, nous dit-il, a brouillé la valeur d'une union pour toute la vie et a affaibli la richesse de l'offrande matrimoniale, ce qui l'amène à voir ce qui se passe dans la situation des gens mariés lorsque, eh bien, il y a prolongation de la vie.
Oui, et ça, c'est une situation relativement nouvelle. Parce que, autrefois, les mariages ne duraient pas, comme dit le pape, 4, 5, 6 décennies, hein, la plupart du temps. Et que ça induit une nécessité de se choisir réciproquement sans cesse.
Oui, c'est ça, parce que là, le démarrage qui peut être sur les chapeaux de roue parce qu'on s'aime, il faut aussi faire durer l'émotion, les sentiments qui ont pu accompagner le début du chemin. Et il évoque justement que l'un vis-à-vis de l'autre est compagnon sur le chemin de vie avec lequel on affronte les difficultés et on profite des belles choses, que cela induit un projet commun stable et que, je cite, « l'amour que nous nous promettons dépasse toute émotion, tout sentiment et tout état d'âme, bien qu'il puisse les inclure. La décision d'aimer est maintenue vivante. » Et puis, il conclut ce chapitre en rappelant que dans l'histoire d'un mariage, l'apparence physique change. On tombe amoureux d'une personne complète avec son identité propre et pas seulement d'un corps.
Oui, même si ce corps exprime l'identité personnelle, même à travers l'usure physique, le vieillissement.
Donc, un chemin pour se construire jour après jour et un chemin où rien n'est possible si l'on n'invoque pas l'Esprit Saint, si l'on ne crie pas chaque jour pour demander sa grâce et si l'on ne cherche pas sa force surnaturelle. Eh bien, nous allons faire une pause avant de regarder ce qui se passe lorsque l'amour devient fécond, c'est-à-dire lorsque l'enfant paraît. Toujours dans les mots de la foi, autour de l'encyclique La joie de l'amour du pape François, nous évoquons donc ce qui se passe lorsque l'amour aboutit à donner la vie. L'amour conjugal ne s'achève pas dans le couple. Les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant. Et on parle de l'accueil d'une nouvelle vie.
Oui, parce que la famille, dit le pape, est le lieu non seulement de la procréation, mais aussi celui de l'accueil de la vie qui arrive comme un don de Dieu.
Ça, c'est intéressant, un don de Dieu. Et ben, le pape rappelle que beaucoup d'enfants sont dès le début rejetés, abandonnés, dérobés à leur propre enfance et à leur avenir. Et il interroge, que faisons-nous des déclarations solennelles des droits de l'homme et des droits de l'enfant ? Il s'insurge contre l'enfant puisse penser qu'il est une erreur. C'est
oui,
grave, c'est ça.
Oui, parce que l'important, c'est l'accueil de cet enfant, la protection tout au long de sa vie qui permet d'arriver à la joie de la vie éternelle, la destination finale de la vie.
Alors, arriver à éviter qu'un enfant n'arrive à penser qu'il est une erreur, on vient de le dire, qu'il ne vaut rien, qu'il soit abandonné aux blessures de la vie et à l'arrogance des hommes, alors que Dieu confie aux hommes le soin de choisir le nom par lequel il appellera chacun de ses enfants pour l'éternité. Et il ouvre aussi à l'idée que ces familles nombreuses sont une joie pour l'Église. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire autant d'enfants que la nature peut en donner.
Oui, il rappelle la mise en garde de Jean-Paul II qui expliquait que la paternité responsable n'est pas une procréation illimitée.
Voilà, mais qu'il faut plutôt user de la liberté inviolable de manière sage et responsable en prenant compte des réalités sociales et démographiques, et puis de sa propre situation. Et il évoque aussi la situation très concrète de l'amour dans l'attente de la grossesse. Il a de très belles pages, là.
Oui. Chaque femme participe au mystère de la création qui se renouvelle dans la procréation humaine. Il rappelle le psaume « C'est toi qui m'as tissé au ventre de ma mère ».
Et donc, il rappelle aussi que chaque enfant est dans le cœur de Dieu depuis toujours et qu'au moment où il est conçu se réalise l'éternel rêve du Créateur. Dieu qui confie à l'homme de réaliser son rêve. C'est assez extraordinaire,
ah, oui,
tout de même.
Oui.
Le pape propose aussi à la femme enceinte qui peut participer à ce projet de Dieu en rêvant de son enfant. Toutes les mamans et tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant 9 mois. C'est impossible, une famille qui ne rêve pas.
Il dit quand la capacité de rêver se perd dans une famille, les enfants ne grandissent pas, l'amour ne grandit pas, la vie s'affaiblit et s'éteint.
Alors, il évoque aussi les progrès scientifiques. Hein. Aujourd'hui, on peut savoir d'avance la couleur des cheveux, de quelle maladie l'enfant pourra souffrir, des caractères somatiques de la personne. Mais, nous dit-il, seul le père qui l'a créé le connaît en plénitude. Et que cet enfant, il doit se sentir attendu. Il n'est pas un complément ou une solution à une préoccupation personnelle. Ce n'est pas quelqu'un pour avoir des allocs, par exemple. C'est un être humain d'une valeur immense. Les enfants sont un don.
Oui. Et il dit, on aime un enfant parce qu'il est un enfant. Et non pas parce qu'il est beau, qu'il est comme ci, comme ça. Parce que c'est un enfant, non pas parce qu'il pense, comme moi, qu'il incarne mes désirs. Un enfant est un enfant.
Et du coup, le pape propose à toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement, protège ta joie, que rien ne t'enlève la joie intérieure de la maternité. Ne permets pas que les peurs, les préoccupations, les commentaires d'autrui, les problèmes éteignent cette joie. Et il fait référence à Marie,
qui reprend dans son cantique, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante.
À qui il confie quand même le soin de son fils.
Oui.
Et puis il évoque, c'est au numéro 172, l'affection des parents.
Oui, parce que c'est l'amour du père et de la mère. Dès qu'ils naissent, les enfants commencent à recevoir en don la confirmation des qualités spirituelles de l'amour, à travers le don du nom personnel, la transmission du langage, les regards, les sourires. Ils apprennent la beauté du lien entre les êtres humains.
Et enfin, on va conclure là-dessus. Respecter la dignité d'un enfant signifie affirmer son besoin, ainsi que son droit naturel à un père et une mère. Pas seulement l'amour d'un père et d'une mère séparément, mais aussi de l'amour entre eux, perçu comme source de sa propre existence. Donc, que l'enfant ne soit pas réduit à une possession capricieuse. Les deux, homme et femme, père et mère, sont les coopérateurs de l'amour du Dieu créateur et comme ses interprètes. Et bien voilà, pour aujourd'hui, allez voir ces belles pages. C'est dans l'encyclique du pape François, La joie de l'amour. Et nous vous disons bonne semaine à tous, au revoir.